tout de suite. Le débat, Trump, le Brexit, la remontée des taux, trois chocs en ce début d'année pour nous, Européens. Alors accrochez-vous.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
People of Britain.
Le peuple britannique.
Donald Trump.
Voted to declare.
A voté.
Candidat à la Maison Blanche.
Their independence.
Pour affirmer son indépendance.
26 août 2016.
Which is
what. Et c'est ce que nous cherchons à faire aussi.
Also, folks, ladies and gentlemen, Mr. Nigel Farage.
Thank you very much.
Dirigeant du UKIP.
I come to you from the United Kingdom.
Je me présente devant vous avec un message d'espoir.
It's a message that says,
un message qui dit que si
people,
le petit gens, les vrais gens,
are prepared
sont prêts à se lever et à se battre pour ce en quoi ils croient. Nous pouvons prendre le pouvoir sur les grosses banques. Nous pouvons prendre le pouvoir sur les multinationales.
Nous ne voulons pas rester membres de l'Union européenne.
Theresa May, première ministre du Royaume-Uni.
Non, le Royaume-Uni quitte bel et bien l'Union européenne.
17 janvier 2017.
Et mon travail est de négocier le meilleur partenariat possible.
Il faut revoir le modèle économique.
Marine Le Pen.
Il faut faire du patriotisme économique.
Candidate Front National à la présidentielle.
Il faut faire du protectionnisme intelligent.
18 janvier 2017.
Que, par exemple, M. Trump est en train de mettre en œuvre aux États-Unis, que Mme May est en train de mettre en œuvre. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen.
And I promise you,
Donald Trump, 45e président des États-Unis.
I will work.
20 janvier 2017.
Nous ne laisserons plus des pays étrangers prendre nos emplois.
Donald Trump n'est plus l'allié de l'Europe.
C'est une
Manuel Valls
provocation.
Candidat à la primaire de la gauche.
C'est une déclaration de guerre à l'Europe.
17 janvier 2017.
Enfin, le président des États-Unis propose tout simplement la dislocation de l'Europe sur les sujets commerciaux.
Ça ne va pas marcher.
Joseph Stiglitz.
Les politiques macroéconomiques de Trump amèneront finalement une aggravation du déficit commercial.
Économiste.
Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on exporte vers ces pays.
18 janvier 2017.
Et je ne sais pas s'il est en train annoncer une guerre commerciale ou s'il aimerait une guerre commerciale.
Monsieur Trump l'Américain.
Emmanuel Macron.
N'oubliez jamais.
Candidat à la présidentielle.
Que si vous êtes une nation libre.
En marche.
C'est parce que des ambitieux.
16 janvier 2017.
Sont partis de ces terres. Avec le même rêve. Le rêve français. Le rêve européen.
Européen. Européen. Européen.
C'était les sons de la semaine avec, premier choc, le nouveau président des États-Unis, il a une règle, il l'a dit hier, acheter américain, embaucher américain, America first. Le deuxième choc, c'est le Brexit avec Theresa May, il sera dur. Le troisième choc, infiniment plus silencieux, et il ne tweete pas, c'est la remontée des taux d'intérêt. Les planètes se désalignent, hein. Le monde tel que nous le connaissions est bouleversé, mais est-ce que pour l'Europe, c'est un moment porteur de danger ou d'opportunités, voilà notre débat. Emmanuel Le Chypre, on aurait tort de penser que tout ça c'est loin de nous, hein, le Brexit, Trump.
Oui, absolument, on aurait tort de penser que c'est loin de nous. D'abord parce que ce sont des chocs économiques. Hein, la politique économique de Donald Trump, la politique économique de Madame May, la hausse des taux, vont impacter notre croissance et la croissance de ses grands partenaires. Ce sont aussi, au-delà des chocs de croissance, des chocs commerciaux, parce qu'on voit bien qu'il y a des gros enjeux du côté de la moindre fluidification, finalement, du commerce mondial. On va peut-être mettre des barrières douanières. Donc ça va impacter directement le prix des produits qu'on va acheter. Donc notre pouvoir d'achat est en cause. Et puis ça va impacter aussi notre capacité à vendre à l'étranger. À ces deux chocs, il faut ajouter un choc monétaire parce que on voit bien que les monnaies vont fluctuer de façon importante suite à ce Brexit, suite à l'arrivée de Monsieur Trump. Que va-t-il se passer sur le dollar? On a déjà vu que la livre sterling s'était effondrée. Ça, c'est aussi important. Et puis un choc de gouvernance parce que profondément, on rentre dans un monde de confrontation, même au niveau des diplomates, qui n'est plus un monde de coopération. Donc le fait de rentrer dans un monde de confrontation, moi personnellement, ça m'inquiète. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que toutes les réponses qui sont proposées, tous les programmes de ces gens, sont les mauvaises réponses à des vraies questions. On y reviendra. Juste un exemple. Le problème des États-Unis aujourd'hui, ça n'est pas d'importer moins, c'est d'exporter plus. Le problème de Madame May, c'est pareil, ça n'est pas de freiner les flux d'immigration. Le Royaume-Uni a besoin des immigrés. Et donc je suis frappé de ces politiques qui proposent des mesures qui vont à l'encontre des gens qu'elles sont censées défendre.
Et qui ont été élus, alors avec plus ou moins de validité, mais qui ont été élus par leurs citoyens.
Absolument.
On prend les choses une par une. Trump, 45e président des États-Unis, Christian Chavagneux, le boss de la première puissance mondiale, applaudit le Brexit, annonce la guerre commerciale avec la Chine. C'est le protectionnisme américain contre le reste du monde. Est-ce que je peux résumer ça comme ça ?
Pas complètement. C'est d'abord le populisme qui se met en place concrètement. Et là, on aura vraiment un exemple concret de ce que c'est qu'un homme providentiel, de ce que c'est que quelqu'un qui nous dit quand même hier, il faut quand même un sacré culot pour nous dire c'est pas la transition entre le Parti démocrate et le Parti républicain, c'est la transition entre les partis politiques et vous le peuple. Il a répondu the people, the people, the people au moins 10 fois. C'est le discours type du populiste et puis toute ce positionnement isolationniste et protectionniste. Alors cela dit, le protectionnisme, on ne sait pas trop si ça va se mettre en place aux États-Unis parce que les congressmen, les élus républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils n'en veulent pas. C'est comme son grand plan de relance. Il a dit hier, on va construire des ponts, des routes, etc. Mais les congressmen américains, ils n'en veulent pas non plus. Donc la partie qu'on commente le plus du programme de Trump, c'est peut-être la partie qui ne va pas être mise en œuvre. La partie qui va être mise en œuvre, dont on est sûr qu'elle va être mise en œuvre, c'est quoi ? C'est deux mesures pour l'instant. La réduction du taux d'imposition sur les profits des sociétés. Il veut passer de 35%. On a dit à 15%. Et puis, vous savez, ces multinationales américaines, elles mettent beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux parce que dès que vous rapatriez l'argent aux États-Unis, c'est taxé à 35. Trump leur a dit, écoutez, je vous fais un deal. Si vous le rapatriez aux États-Unis, je vous fais un taux d'imposition à 10%. Les républicains ont dit peut-être même 7-8. Donc là, il y a peut-être beaucoup de multinationales américaines. On dit qu'elles ont un peu plus de 2000 milliards de dollars qui sont pas rapatriés. Elles pourraient en rapatrier la moitié, 1000 à 1200. Et ça, qu'est-ce que ça va faire?
Oui, comment ça va nous impacter?
Entre la baisse d'impôts sur les sociétés, entre leur rapatriement. Qu'est-ce que ça va faire aux États-Unis? Ça va faire augmenter la bourse américaine. Ça va faire augmenter les rachats d'actions, la distribution de dividendes. La bourse américaine va monter. Les capitaux du monde entier, notamment européens, vont vouloir aller se placer sur cette bourse américaine qui va enrichir tout le gouvernement de Donald Trump, qui a plein d'actions, tout son gouvernement et Donald Trump lui-même, ou ses enfants ont plein d'actions. Ça va enrichir les milliardaires, ça va attirer les capitaux. Le dollar va s'apprécier, donc l'euro va se déprécier. C'est bon pour notre compétitivité si on arrive à exporter, s'il n'est pas trop protectionniste.
Emmanuel Lechy, brillante analyse de Christian Chavagneux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce scénario qui va arriver, dit Christian ?
Mais sur ce point précis, absolument. Et c'est là qu'on voit, ça n'est qu'une illustration de ce qu'on a commencé à dire. C'est-à-dire que toutes ces politiques vont se retourner de façon absolument impitoyable contre ceux qu'elles sont censées protéger. Encore une fois, si vous mettez en place des mesures protectionnistes, comme le propose Donald Trump, sur les produits chinois, sur les produits mexicains, qui sont quand même les deux grands partenaires commerciaux des États-Unis, c'est 3 points d'inflation en plus. Ça n'est plus 2% d'inflation, c'est 5% d'inflation. C'est à peu près autant de pouvoir d'achat en moins. Ces 3%, c'est Moody's Analytics qui a fait le calcul. Imaginez ce que ça représente, 3 points de pouvoir d'achat en moins. Et ça, c'est le petit Américain qui va le payer. Quand on nous dit ça va créer des emplois, moi je veux bien, mais les annonces de rapatriement d'usines automobiles aux États-Unis, c'est quelques centaines. Allez, je vous le fais à quelques milliers d'emplois. L'économie américaine crée aujourd'hui 200 000 emplois par mois. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout...
C'est de l'ordre du symbole, là, c'est ça ?
À ce niveau-là. Et encore une fois, quand vous regardez la composition des échanges américains, vous voyez que leur problème, c'est quoi ? Par rapport aux pays européens et au Japon, par exemple, c'est que le « made in America » a du mal à s'exporter, par exemple, en Chine. Et donc, le vrai problème, c'est pas de pénaliser le pouvoir d'achat des Américains en restreignant les importations. Ce serait au contraire de vouloir plus d'échanges pour imposer plus les produits américains à l'étranger. Donc la politique commerciale de Monsieur Trump, elle est aujourd'hui complètement erronée. Et je rappelle juste que dans l'histoire, si les États-Unis ont connu la guerre de sécession, c'est parce que déjà les États-Unis se sont lancés dans des politiques protectionnistes qui ont pénalisé les États du Sud. Ce serait trop long de refaire l'histoire, mais sachez que le protectionnisme, bon sang de bonsoir, a déjà coûté très cher aux États-Unis dans l'histoire. Il faudrait retenir les leçons du passé.
Et en effet, c'est la question que pose Trump et c'est l'effet miroir. Le protectionnisme marche-t-il ? Bon, la réponse d'Emmanuel Lechypre, ça nous intéresse. C'est non.
Bah, a priori, oui. Oui, enfin, quand on est un petit pays qui essaie de se développer, être protégé des grands vents de la finance internationale, être protégé des grands vents des multinationales, de la puissance des multinationales américaines, européennes, ça sert à quelque chose. Même la Banque mondiale et le Fonds monétaire international nous disent le protectionnisme dans l'enfance, disent les économistes. Quand vous êtes un petit pays qui essaie de se développer, être un peu protégé, ça aide. La Corée du Sud, par exemple, le Japon, la Chine se sont quand même développés en exportant beaucoup, mais en protégeant leurs frontières. Donc quand on est un petit pays, ça aide. Quand on est un grand pays installé en plein milieu de la mondialisation, évidemment, vous avez tellement d'importations dans vos exportations qu'à chaque fois que vous taclez les importations, vous rendez vos exportations beaucoup plus chères. Ce que dit Patrick Artus, en plus l'économiste de Natixis, c'est cette semaine, c'est que mettons que le protectionnisme crée des emplois aux États-Unis, mais le taux de chômage américain, il est à 4,7% aujourd'hui. Même les petits salaires augmentent tellement il y a de la pression sur le marché du travail. Même les petits jobs mauvais. C'est vrai que dans ce 4,7% de chômeurs, il y a plein de jobs pourris.
Oui, non, puis attendez, il y a beaucoup de chômeurs, on en a parlé ici, il y a beaucoup de chômeurs cachés.
Il y a beaucoup de chômeurs
qui n'apparaissent pas dans ce chiffre.
Qui n'apparaissent pas dans ce chiffre, mais on n'est pas sûr qu'ils reviennent sur le marché du travail. Donc ce que dit Artus, alors je vous livre comme ça son commentaire, il vaut ce qu'il vaut, c'est que si vous rajoutez, des gens qui reviennent alors qu'il y a pas d'emploi, ça va créer quoi ? De l'inflation, ce que disait Emmanuel. On va simplement augmenter l'inflation, faire perdre le pouvoir d'achat aux Américains.
Moi, j'ai quand même une question. Est-ce qu'on peut revenir à comment ça va nous impacter ? Est-ce que, pour nous, c'est un danger ou une opportunité ? J'ai entendu Christian qui dit il y a des entreprises américaines qui vont se rapatrier aux États-Unis. J'entends Christian qui dit aussi l'euro va baisser. Emmanuel, le Chypre, est-ce que c'est un danger, ce monde selon Trump, pour nous, ou une opportunité ?
Alors, avant de répondre, il faut juste préciser deux nouvelles règles du commerce mondial qui change la façon de voir le protectionnisme. Parce que l'idée sous-jacente, elle est très simple, hein, le protectionnisme, c'est je défavorise les produits étrangers pour encourager mes produits nationaux à moi. Or, la réalité aujourd'hui des chaînes de production mondiale, c'est que il y a plein de produits qui ne sont plus fabriqués dans plein de pays. Prenez la France, les 25 produits les plus achetés par les Français ne sont plus du tout fabriqués en France. L'électroménager, l'ameublement, les vêtements, la téléphonie, etc. Donc, si vous voulez pénaliser les importations, vous pénalisez directement ces produits qu'on continuera quand même à acheter, donc le pouvoir d'achat. Et puis un point très important que Christian a souligné, l'imbrication des chaînes de production mondiale, c'est que 40% de l'exportation d'un pays est composée d'importations de composants qui ont été faits à l'étranger.
Et donc le paradoxe, fameux exemple de l'iPhone.
Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les importations, loin d'être une menace, sont un élément important de la compétitivité d'un pays, la capacité à bien importer. Donc ça détruit complètement ce raisonnement sur le protectionnisme, qui est un raisonnement du monde d'avant.
Alors Christian, la question
Même si c'est juste un petit peu en recul, hein, ça se démondialise, l'économie mondiale se démondialise en ce moment. Il n'y a pas besoin de protectionnisme, on est en train de démondialiser. Et ce que peut faire Trump, est-ce que nous, et on a le débat aussi en France aujourd'hui ou en Europe, c'est est-ce qu'on peut pas quelquefois sur les marchés publics privilégier les entreprises locales, faire du circuit court ? C'est pas du protectionnisme, c'est une façon de produire local sans faire de protectionnisme, mais qui est peut-être une bonne voie.
Et ma question, le monde selon Trump, danger ou opportunité ? Emmanuel Le Chypre, comment vous voyez les choses ?
Ben, je pense que ça nous renvoie à nos propres problématiques européennes, c'est-à-dire que si l'Europe n'est pas capable de s'organiser face à, encore une fois, à un monde dans lequel les rapports se musclent, eh ben je pense qu'on sera perdant. Si en revanche on est capable de réagir avec une Europe plus recentrée, parce qu'elle sera débarrassée du parasite britannique, j'ai envie de dire, sur tout un tas de décisions,
voilà la transition.
Et qu'il y aura une logique à avoir une Europe qui soit plus proche de la zone euro, si on arrive à s'organiser, on peut très bien sortir gagnant. Si on n'arrive pas à s'organiser entre le géant chinois, américain et russe, ça va être très compliqué pour nous Européens.
Christian Chavagneux, il l'a fait la transition, Emmanuel. Hein. Le Brexit dur, dit Theresa May.
Moi, j'ai été frappé par la tonalité extrêmement violente du discours anti-européen de Theresa May. On a entendu Marine Le Pen, hein. Elle nous a dit « Mais Madame May, elle est en train de faire mon programme ». Oui, je pense que Madame May, elle a le discours des partis extrémistes de droite aujourd'hui en Europe. Pourquoi ? Son discours de mardi dernier, il est basé sur trois piliers. Un, la dénonciation du projet économique européen. Il n'y a pas assez de flexibilité pour les différents modèles économiques. Il n'y a pas assez de contrôle démocratique des décisions. Il n'y a pas assez d'ouverture extérieure. Elle nous dit, Madame May, le Royaume-Uni hors de l'Europe va faire plus de croissance parce que vous êtes englué dans votre Union européenne. C'est quand même très très dur, très violent. Deuxième pilier, forte condamnation des migrants européens, pas des Pakistanais ou des Afghans, des migrants européens. Elle nous dit, Madame May, les migrants européens ont mis la pression sur les services publics, ils ont rempli nos écoles, il n'y a plus de place pour les petits Anglais, ça a tendu nos infrastructures, notamment dans le logement, ça exerce une pression à la baisse sur les salaires de la classe ouvrière. Le message est clair, vous, étrangers européens, vous n'êtes plus bienvenus aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est quand même dingue. Et puis le troisième pilier, c'est le début de la stratégie de négociation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Elle nous dit bon, je veux un accord de libre-échange, c'est-à-dire je veux que mes produits puissent circuler avec l'Europe, et puis je veux qu'on ait à peu près les mêmes normes techniques. Et attention, si vous faites pas ça, c'est la menace, on devient encore plus un paradis fiscal, social et réglementaire. Ce qui est n'importe quoi. D'abord, sur le plan fiscal, le Royaume-Uni est déjà, je dirais, un paradis fiscal. Qu'est-ce que ça va faire de baisser les impôts? On l'a vu dans tous les pays. Le Royaume-Uni va perdre des recettes fiscales. Vous êtes un tout petit pays comme le Luxembourg, vous baissez les impôts dès que vous avez une vingtaine d'entreprises qui vient, vous compensez par le nombre d'entreprises, par le volume, ce que vous perdez en valeur. Mais pour le Royaume-Uni, c'est pas vrai, ce serait des pertes de recettes fiscales. Et sans régulation sociale, c'est déjà le cas. Sans régulation financière, le Royaume-Uni va perdre l'équivalence avec les normes qui sont en Europe, qui existent aujourd'hui. Et là, c'est la mort de la City.
Est-ce que nous allons bénéficier, nous qui restons dans l'Union européenne, Emmanuel Le Chypre?
Alors, en bénéficier, je sais pas. Mais
allons-nous être gagnants ou perdants de ce Brexit dur?
Juste, encore une fois, tout ce qu'a dit Christian nous renvoie toujours à cette même idée, qui sont les incohérences intellectuelle même de toutes ces propositions. Comme Madame May dit, les services publics se dégradent. Où est la cohérence quand vous dites ça et que vous dites que vous allez baisser les impôts pour avoir moins de recettes, pour faire moins de dépenses publiques?
On a entendu qu'elle pense que s'il y a moins d'étrangers européens, ça ira mieux quand
Alors,
même.
Alors, juste, ouais. Disons que sur le plan démographique, le Royaume-Uni a besoin de 109 et que les travaux qui ont été menés par l'administration britannique montrent que les étrangers contribuaient positivement aux comptes sociaux britanniques. Donc voilà, non, clairement, on a à y perdre quoi.
La libre circulation des biens et des personnes.
Oui, mais
et
encore
un
une
trou
fois, le
Royaume-Uni
a beaucoup plus à perdre que nous. Et là, il y a cette espèce d'illusion à cause de l'effet d'évaluation de la livre qui a donné un petit coup de fouet à l'économie britannique. Mais les lendemains vont déchanter. Les Britanniques sont ceux dont le moral a le plus chuté depuis un an. Hein, pourquoi? Parce que les Britanniques qui ont voté pour le Brexit, ils commencent à voir que l'inflation à 4%, ça leur fait beaucoup de pouvoir d'achat en moins à cause de la chute de la livre. Donc, là encore, on a moins à perdre globalement au niveau européen que l'Europe, mais on a beaucoup à gagner, encore une fois, je le martèle.
À condition de s'organiser.
Si les pays européens réussissent à s'organiser et à retrouver un nouvel élan. Et là-dessus, il y a des raisons, malheureusement, de pas être très optimiste, parce que moi, ce que je vois, c'est que les pays de l'Est, par exemple, sont en train d'aller manger dans la main de Monsieur Trump, les anciennes démocraties populaires, aujourd'hui membres de l'Union européenne, et que ça va être très dur de trouver une union à 27 qui retrouve un élan politique et un vrai projet. Je crains que ce soit compliqué.
Alors, c'est passionnant. On va être très bref sur le troisième choc, hein, Christian Chavagneux. C'est ce choc silencieux. On veut juste le souligner. Les taux sont en train de remonter. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave, docteur?
C'est très, très inquiétant. Regardez, en novembre dernier, la France, quand elle empruntait à 10 ans, elle empruntait à 0,7%. En janvier, depuis qu'il y a cette tension sur les taux, elle emprunte à 0,8%.
Je sens que vous moquez de moi.
Vous voyez un petit peu le danger extrêmement fort qu'elle a. Donc, la remontée des taux, elle est là, mais elle est complètement maîtrisée. En plus, la Banque Centrale Européenne l'a réaffirmé. S'il y a des hausses des taux de son côté, ce sera pas avant 2019. Donc, on a le temps de voir venir. C'est vraiment complètement maîtrisé. On s'endette sans problème à des taux extrêmement faibles. Il y a nos sujets.
Oui, allez Emmanuel Le Chypre, quand même.
Non, je crois qu'il faut pas négliger le fait que ce risque de remontée des taux d'intérêt à long terme est quand même une des principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'économie mondiale. Mais il y a suffisamment de barrières aujourd'hui. Le fait notamment qu'on a besoin d'actifs peu risqués pour les investisseurs et qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc vous aurez toujours, à un horizon quand même assez lointain, des gens qui achèteront les dettes des grands pays. Ce qui fait qu'effectivement, les projets fous de grande relance de l'investissement que nourrit Christian peuvent pendant encore quelques mois être alimentés.
Ouais, et on parlera une autre fois de nos enfants alors, hein, et de la dette et de nos enfants. Ça sera un autre débat.
Juste pour terminer, Alexandra, oui. Tout ce qu'on a dit ne doit pas faire oublier quand même que cette mondialisation n'a pas été une mondialisation heureuse qui a eu que des effets bénéfiques.
Tout à fait.
On n'a pas dit que la mondialisation était un truc absolument génial. Voilà, on a dit que tout ce qui était proposé aujourd'hui était
incohérent.
Stupide.
Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux, merci.